Donc, la fédération a tenu deux jours de séminaire sur le thème fraternité et violence le 6 et 7 avril à Paris, dans un magnifique lieu qui s'appelle le Palais de la Femme et qui est géré par l'Armée du Salut. Je vous invite à le voir si vous avez l'occasion. Je ne vais pas vous résumer ce séminaire. Un certain nombre de publications ont été faites dans le journal Protest de la Fédération. Si vous ne l'avez pas lu, ce qui est tout à fait possible, je crois qu'il y en a quelques-uns là-bas à l'accueil, sinon vous m'en demanderez et je vous en ramènerai à l'occasion de Paris. Les informations doivent être retranscrites aussi sur le site de la Fédération. Néanmoins, ce que j'ai voulu vous partager, c'est une méditation d'ouverture qui avait été portée par Isabelle Bousquet, qui est pasteur à la Fondation John Bost, avec notre ami Joël Dahan, et qui m'avait un petit peu bousculé, interpellé, donc je voulais vous faire partager ça. Nous avons commencé par l'écoute du chant de Jacques Brel, que nous n'allons pas faire phoniquement, vous allez l'entendre comme un poème, « Pourvu que nous vienne un homme ». Pourvu que nous vienne un homme aux portes de la cité, que l'amour soit son royaume et l'espoir son invité, et qu'il soit pareil aux arbres que mon père avait plantés, fier et noble comme un soir d'été, et que le rire d'enfant qui lui teinte dans la tête l'éclabousse de reflets de fête. Pourvu que nous vienne un homme aux portes de la cité, que son regard soit un psaume fait de soleil éclaté, qu'il ne s'agenouille pas devant tout l'or d'un seigneur, mais parfois pour cueillir une fleur, et qu'il chasse de la main à jamais et pour toujours les solutions qui seraient sans amour. Pourvu que nous vienne un homme aux portes de la cité, et qu'il ne soit pas un baume, mais une force, une clarté, et que sa colère soit juste, jeune et belle comme l'orage, qu'il ne soit jamais ni vieux ni sage, et qu'il rechasse du temple l'écrivain sans opinion, marchant de rien, marchant d'émotion. Pourvu que nous vienne un homme aux portes de la cité, avant que les autres hommes qui vivent dans la cité, humiliés d'espoir, meurtris et lourds de leur colère froide, ne dressent au creux des nuits de nouvelles barricades. Cet homme est venu, nous avons fêté en mars dernier sa victoire sur la mort, un tombeau vide, un matin où il n'y avait plus personne à embaumer. Et depuis ce premier matin de Pâques, c'est en son nom que les chrétiens se saluent et s'accueillent. Cet homme ressuscité a dit à ses disciples, d'après l'écrivain de l'évangile de Jean, « C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne, je ne vous la donne pas à la manière du monde, ne soyez pas inquiets, ne soyez pas effrayés. » Un jeune homme, ayant trouvé dans la lecture des récits bibliques la paix avec son passé, la paix avec le présent, bref, la capacité d'être responsable de ses relations aux autres et à Dieu, a affiché dans ses toilettes, vous savez, juste là où on met les textes que l'on veut apprendre par cœur. Ce verset des Béatitudes, cette parole de Jésus, « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. » C'est bien l'image qu'il s'était faite de sa lecture des Évangiles, celle d'un Jésus passant la quasi-totalité de son temps, en gestes et en paroles, à réconcilier les hommes avec eux-mêmes, avec leurs semblables, un vrai maître de paix. Un jour en rêve, il se voit demander à Jésus lui-même un conseil pour être artisan de paix. C'est un rêve chaud et doux, où il fait bon être disciple. Il s'approche de Jésus et Jésus lui demande « Que veux-tu ? Demande-moi ce que tu désires. » Oui, c'est souvent à cela que l'on reconnaît Jésus dans les évangiles. Là où d'autres ne prendraient pas la peine de demander à leur interlocuteur ce qu'ils désirent, plein de la certitude de savoir à l'avance ce que l'autre veut, ce qui sera bon pour lui, Jésus demande à un aveugle pourquoi il l'appelle, au paralysé devant la piscine de Bethsabée s'il veut guérir. Il est comme cela, Jésus. Il ne sait pas pour moi ce que je désire. Ce que je désire, continue le jeune homme, la fin des guerres dans le monde, la fin des bidonvilles en Amérique latine, l'intégration dans la société de tous les marginaux, du travail pour tous les chômeurs, l'inclusion sociale de toutes les personnes vivant avec des handicaps, plus d'amour et de vie communautaire dans l'Église. Et la paix, oui, surtout, et peut-être d'abord plus de fraternité. Oui, c'est cela, Jésus, dit le jeune homme exalté. La paix, la fraternité. On ne s'est pas compris, dit Jésus. Je ne peux te donner les fruits. relis mon évangile. Ne te souviens-tu pas de mes paroles ? Dans Matthieu, ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le couteau tranchant. Je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les membres de sa propre famille. Le jeune homme ouvre de grands yeux. Oui, il se souvient vaguement. Et puis, quelle n'est pas sa surprise lorsque Jésus lui tend une boîte à outils. Je ne peux te donner les fruits, mais reçois mes paroles comme ta boîte à outils pour être à ton tour artisan de paix, de ma paix. Ouvre-la, joue et vis avec ces outils. Dans son rêve, l'homme a pris la caisse à outils. Et son rêve chaud et doux, son rêve bisounours va-t-il virer au mauvais rêve ? Il ouvre la caisse à outils et doucement, tout doucement, comme s'il avait peur d'un quelconque piège, il attrape un à un les outils. Un petit couteau tranchant à séparer. À peine a-t-il en main cet étrange couteau, à l'allure des ouvres-huîtres modernes, que son rêve fait défiler devant ses yeux le poème de la création. Et le couteau sépare la lumière des ténèbres, les eaux d'en haut de celles d'en bas, le jour de la nuit, la lumière des ténèbres, je l'ai déjà dit celle-là, elle vient deux fois, l'humain homme de l'humain femme, la création comme une suite de séparation. C'est tranchant, mais quel magnifique résultat. Il entend même une voix dire « C'est bon, je vois que cela est bon ». Séparé parce qu'on ne peut créer dans la fusion, séparé pour créer, créer construirait la paix. Le jeune homme repose le couteau, il hésite à attraper un autre outil. Et puis si, un beau couteau de cuisine, de ceux qui vont s'abîmer au lave-vaisselle, se dit-il. On dirait celui de l'arrière-tente à la lame qui rouille mais qui coupe si bien. Amusant comme en rêve, on recycle le réel. À peine a-t-il entre les mains le couteau que son rêve fait défiler devant ses yeux les récits et consignes du Lévitique pour les sacrifices d'alliance avec Dieu. Et le couteau sépare en deux l'oiseau, tranchant entre les ailes pour séparer en deux la bête, et le feu passe entre les deux parties, et l'alliance est scellée. Séparé, parce qu'il faut se faire face pour s'allier, se faire face pour construire la fraternité. Maintenant, le jeune homme a très envie de voir encore d'autres histoires où la séparation serait une étape avant la paix, avant la fraternité. Il regarde encore une paire de ciseaux. À peine l'a-t-il en main que les ciseaux lui racontent ce moment où Dieu demande à Abraham d'arrêter d'appeler sa femme Sarai, ma princesse. Les ciseaux d'un grand coup sonore coupent le yod, le itrema, au prénom de l'épouse. Elle perd son pronom possessif, devient Sarah. Elle n'est plus la chose ou la princesse de son mari. Mais on est d'accord, quand les maris donnent à leur femme du « ma princesse », surtout si c'est en plein moment super épanouissant de repassage des vêtements de toute la famille, y compris de celle du mari, il ne manquerait plus qu'un « qu'est-ce que je peux te faire pour qu'on se sente une chose ?» La femme d'Abraham devient princesse, tout simplement, et c'est seulement après l'ablation du possessif, dans son prénom, qu'elle pourra donner la vie. Elle était stérile jusque-là. Coupée, tranchée pour ne plus appartenir à un autre, un outil pour être artisan de paix de Jésus. Au matin, l'homme se souvient juste de ses dernières paroles à Jésus, en remerciant pour la caisse à outils. « Seigneur, je comprends maintenant que quand tu me donnes ta paix, c'est bien à moi que tu la donnes, elle fait de moi un homme séparé de toi. Et parce que je ne me prendrai pas pour Dieu, la paix avec les autres sera plus aisée à construire. Je comprends maintenant que la paix que tu me donnes, je ne peux pas la renvoyer aux autres comme une balle et qu'il faut que je joue avec tes outils pour la construire. Tes histoires de couteaux tranchants me disent aussi que l'autre n'est pas moi, que je ne suis pas lui. Merci pour l'altérité, clé pour la paix. Seigneur, c'est moins bisounours que ce que j'imaginais, mais c'est sans doute plus exaltant à vivre. Merci. » Voilà, et donc j'ai beaucoup aimé dans cette méditation, cette réflexion sur le fait de s'asseoir déjà chacun bien dans ce qu'on est, dans son altérité par rapport aux autres, pour pouvoir construire une communication peut-être fraternelle, avec peut-être un peu de violence de temps en temps, parce que les relations fraternelles ne sont pas toujours exemptes de violence, mais une vraie relation aux autres. Voilà, je vous remercie.